Bonjour. Plusieurs centaines de gilets jaunes sur les Champs-Élysées, des rassemblements partout en France, notamment sur des ronds-points. Le mouvement lancé le 17 novembre veut s'étaler sur tout le week-end pour son acte 14 et pour mieux célébrer ses 3 mois d'existence. Certains gilets jaunes partent aujourd'hui du Sud pour une longue marche vers Paris. Un ancien cardinal américain défroqué par le Vatican, Theodore McCarrick, accusé d'abus sexuels sur mineurs, est rendu à l'État laïque. C'est une première, le pape François met en pratique sa promesse de tolérance zéro. Dans ce journal également, la mort de l'acteur suisse Bruno Ganz, connu pour son rôle dans Les ailes du désir de Wim Wenders et son interprétation d'Hitler dans La chute. Il avait 77 ans. Le mondial du tatouage à Paris, 30 000 visiteurs attendus en 3 jours, plus qu'une mode, c'est un art du corps, nous dira l'organisateur du salon, notre invité dans un instant. Souvenirs d'exil et de révolution, le livre d'une journaliste iranienne, c'est le conseil lecture d'Ilan Amor Youssef. Sur la route, journée rouge en Savoie pour le premier chassé croisé des vacances, le tout sous un beau soleil et des températures printanières bien parties pour durer.
France Inter.
C'est l'acte 14 et c'est un anniversaire. Le mouvement des Gilets jaunes a 3 mois ce week-end. Lancé le 17 novembre sur les ronds-points, la contestation motivée à l'origine par des revendications sur le pouvoir d'achat ne se sera jamais démentie, bien que la mobilisation se soit effritée au fil des semaines et que le mouvement se soit divisé dans ses motivations et dans ses méthodes. Ils étaient encore plus de 51 000 à manifester samedi dernier selon les chiffres du ministère et c'est encore de façon très disparate et désordonnée que des rassemblements ont été convoqué ce week-end. Aujourd'hui et demain, c'est la nouveauté. À Paris, ils ont été quelques centaines à descendre les Champs-Élysées, Delphine Evenour.
Oui, ils se sont retrouvés sur le rond-point de l'Arc de Triomphe où ils ont brièvement bloqué la circulation en fin de matinée avant de s'élancer dans le calme vers la rive gauche, siège du MEDEF et Assemblée nationale, notamment cet après-midi, un parcours déclaré. Dans les autres métropoles, la plupart des manifestations débutent en ce début d'après-midi. À Pontivy, en Bretagne, fourgons de gendarmes déployés, jusqu'à 2500 personnes sont attendues pour un rassemblement régional. La manifestation également à Montpellier, Nîmes, Bordeaux, Lille, Toulouse. Les rangs des cortèges devraient donc être gonflés par des gilets jaunes qui se sont déjà mobilisés ce matin sur des ronds-points, des parkings de centres commerciaux. Un retour aux sources, selon les mots de certains groupes. En Midi-Pyrénées, l'entrepôt Amazon est ainsi bloqué près de Toulouse et plusieurs points de mobilisation enregistrés un peu partout en Haute-Garonne et dans l'Aveyron, mais aussi dans l'Est comme à Pont-à-Mousson. Au Mans, environ 400 gilets jaunes, selon France Bleu, ont occupé le rond-point de l'Océane. À Valence, banderole déployée au-dessus de l'autoroute A7. Et puis le retour aussi des opérations péage gratuit ce matin en Savoie et en Franche-Comté. Enfin, par endroits, les gilets jaunes ont scandé des revendications bien spécifiques comme le maintien du guichet SNCF à Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier ou contre la taxe incitative sur les ordures ménagères à Lunéville en Lorraine.
Les gilets jaunes qui cherchent de nouveaux moyens d'expression dans le Sud. Certains ont choisi de se lancer dans une longue marche vers Paris. Ils seront une dizaine à partir de Marseille tout à l'heure, Olivier Martoc.
Franck Ritt, à l'origine de cette marche, est agent de sécurité incendie. Il a organisé ce matin sur le parking de sa résidence située dans les quartiers nord, une rencontre entre les marcheurs et les journalistes, une première, et ça s'est très bien passé.
Il y a des gens qui sont sur les ronds-points, il y a des gens qui manifestent tous les samedis, mais il y en aura qui remonteront toute la France pour se faire entendre une fois pour toutes. Comme on dit à Marseille, on va racler les marmites, on va dire ce qu'on a vraiment sur le cœur. Et on est tous des gens qui travaillent, vous avez les architectes, vous avez les étudiants, moi je suis ouvrier et honnêtement, on pense la même chose.
Sarah est plus jeune, licenciée en lettres, elle a trouvé un job de cuisinière. Si elle entreprend cette marche, c'est pour faire de la pédagogie autour du RIC.
Donc on s'est fait le petit t-shirt, le marche du RIC, voilà, pour que tout le monde sache un peu quand on arrive de quoi on parle. C'est la clé en fait du futur qui nous permettra vraiment de prendre des décisions importantes pour le pays et en tant que citoyen. On voit bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de pouvoir accordé à l'exécutif et les citoyens ils n'ont pas la parole. On se rend compte qu'il y a des dérives et oui on est en colère.
La colonne sud-est des marcheurs s'ébranle aujourd'hui d'Aix, Nîmes, Vauvert, Le Grau-du-Roi et Marseille et donne rendez-vous mardi à Avignon pour une jonction avec la colonne partie du sud-ouest. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et puis rien à voir avec les gilets jaunes. 2 à 3 000 personnes se sont rassemblées sur les bords de la Dordogne pour soutenir un projet de contournement routier controversé à Beynac, l'un des plus beaux villages de France. Un chantier dont le Conseil d'État a récemment suspendu les travaux. Des travaux qui font polémique depuis des années entre les défenseurs de l'environnement et du patrimoine, dont Stéphane Bern, et des élus locaux. À l'étranger, un cardinal accusé d'abus sexuels et qui revient à l'État laïque. C'est une première historique pour le Vatican. où le pape François a donc défroqué l'ex-cardinal américain Theodore McCarrick, aujourd'hui âgé de 88 ans, pour des faits qui remontent à près de 50 ans. De graves indices étaient ressortis de l'enquête demandée par le Saint-Siège à l'archevêché de New York, après le témoignage d'un homme qui disait avoir été abusé sexuellement par le prélat dans les années 70. Étaient intervenus ensuite les énormes scandales éclaboussant les églises américaines, chiliennes et allemandes. Le pape François avait promis la tolérance zéro et promis qu'il serait intransigeant avec la haute hiérarchie catholique. Xavier Sartre à Rome.
Sollicitation en confession et violation du sixième commandement du décalogue avec des mineurs et des adultes, sans oublier l'abus de pouvoir. Ces termes ne disent rien au grand public, mais ce sont les crimes commis par Theodore McCarrick, une des principales figures de l'Église américaine à la charnière du XXe et du XXIe siècle. Il a été reconnu coupable d'avoir abusé un adolescent profitant de sa position d'alors et utilisant le secret du confessionnal pour parvenir à ses fins. D'où sa peine, la réduction à l'état laïque, la peine la plus sévère prévue par le code de droit canon à l'encontre d'un clerc. L'ancien archevêque de Washington, qui avait renoncé à son titre de cardinal en juillet dernier à cause du scandale qu'il avait provoqué, ne pourra donc plus exercer son ministère de prêtre. Le pape François a reconnu la nature définitive de la décision prise par la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'autorité compétente en matière d'abus au sein de l'Église, décision qui ne pourra pas du coup faire l'objet d'un appel. Le pape confirme ainsi sa politique de tolérance zéro en frappant un homme qui était parvenu à se hisser tout en haut de la hiérarchie ecclésiastique. À Rome, Xavier Sartre, France Inter.
Décision du pape qui intervient à point nommé avant la réunion à Rome la semaine prochaine des responsables de toutes les églises du monde sur ce thème de la pédophilie. Et alors qu'en France, le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête visant le nonce apostolique pour attouchement sur un employé municipal âgé d'une trentaine d'années.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decaen.
C'est une mode, un mode d'expression, un art de vivre, un art tout court, c'est tout ça à la fois, c'est en tout cas de plus en plus tendance. Le tatouage a maintenant son salon à Paris depuis 9 ans déjà. Le mondial du tatouage ce week-end à la Villette, c'est même dans ce domaine le rendez-vous le plus important au monde, avec chaque année plus de 30 000 visiteurs, deux fois plus qu'à Londres ou Los Angeles. 420 tatoueurs y sont présents, représentant une quarantaine de pays, et pour l'animation, des concerts hard rock et pour la première fois des créations de danse contemporaine signée Philippe Decoufflet. Invité de ce journal dans un instant, l'organisateur de ce mondial du tatouage, président du syndicat national des artistes tatoueurs. Mais d'abord, le témoignage d'un tatoueur de métier, dans le métier depuis 1982. Il a vu le profil de ses clients très largement changer.
Clairement, c'est même pas une évolution, c'est une révolution. C'est un monde complètement différent du début où j'ai commencé, quoi. Bah avant, ça demandait une implication beaucoup plus grande de se faire tatouer, puisque c'était beaucoup moins accepté socialement. Donc fatalement, c'était des gens qui étaient un petit peu plus en marge que les gens qui se font tatouer maintenant. Maintenant, il y a des gens très jeunes, de bonnes familles, qui se font tatouer. Avant, c'était pas vraiment le cas, quoi.
Voilà, Bébert le tatoueur, au micro de Marion Gauthier. Bonjour Tintin. Bonjour. Tintin, l'organisateur de ce mondial du tatouage, président du syndicat national des artistes tatoueurs, vous êtes avec nous ? Allô, allô ? Alors, il n'y a personne au bout du fil. Allô ? Vous êtes là ? Toujours pas. On essaiera de joindre tout à l'heure l'organisateur de ce salon, qui s'appelle donc Tintin, avec un tiret entre les deux syllabes. Lui, il avait tourné pour les plus grands réalisateurs allemands, Herzog, Schlondorf et surtout Wim Wenders, qui lui avait offert son plus beau rôle dans Les Ailes du Désir. C'était en 1987. L'acteur suisse Bruno Ganz est mort ce matin à Zurich, très connu dans son pays où depuis plus de 50 ans, il était très actif, notamment au théâtre. Il aura aussi marqué les esprits en interprétant Hitler dans le film La Chute en 2004, les derniers jours du dictateur dans son bunker de Berlin. Bruno Ganz avait 77 ans. C'est à lire ce week-end en rapport avec le 40e anniversaire de la révolution islamique en Iran, un livre de souvenirs écrit par une journaliste iranienne, Farangis Habibi, dont on vient d'ailleurs d'apprendre le décès ce matin même. Farangis Habibi, d'abord heureuse de cette révolution qui avait chassé le Shah, avant de déchanter ensuite face aux islamistes au pouvoir à Téhéran et de devoir s'exiler en France où elle avait fait ses études. La guerre m'a parlé de loin, c'est le titre de son livre qui paraît aux éditions Stock. Ilana Mor-Youssef.
Lorsqu'elle est revenue vivre en France, fuyant la guerre Iran-Irak, Farangiz Habibi s'était promis d'éblouir ses enfants par une visite aux eaux de Vincennes. Sa révolution était gâchée, certes, mais tout n'était peut-être pas perdu. C'est toute une existence vécue à l'heure iranienne que raconte par petites touches Farangiz Habibi. Un rendez-vous était fixé pour la rencontrer, mais son état de santé ne l'a pas permis. C'est donc Sonia Kronlund, l'amie productrice, qui l'a aidée à écrire ce livre qui nous parle d'elle.
Je connais Farangiz depuis presque une trentaine d'années, quand elle dirigeait la section persane de RFI. Et j'ai lu en fait quelques nouvelles courtes qu'elle avait écrites à l'époque. Et j'ai trouvé que ces nouvelles étaient formidables, à la fois tendres, drôles, profondes, joyeuses. Enfin, j'ai vraiment adoré ce qu'elle écrivait. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'elle écrive davantage. Et comme c'est aussi un écrivain très lent, qui prend son temps, elle a mis une petite dizaine d'années à écrire ce récit qui finalement forme une espèce de fresques sur 40 ans d'histoire à la fois intime et d'histoire de l'Iran.
Son récit est plein de détails cocasses ou déchirants, comme lorsqu'elle évoque le vieux carnet qui contient les noms ou surnoms de tous les interlocuteurs iraniens de sa vie de journaliste. Parmi eux, un anonyme qui téléphonait régulièrement pour des conversations infinies, car qui, mieux qu'un exilé, peut comprendre un autre exilé ?
La guerre m'a parlé de loin par Farangiz Habibi chez Stock. Puisqu'on parle de livres, parlons aussi du prix du Livre Inter. Le président du jury cette année, c'est Riyad Satouf, le scénariste et dessinateur de l'Arabe du futur. Pour faire partie des 24 jurés, il n'est pas trop tard. Il y a deux manières de se porter candidat sur Internet, franceinter.fr ou par courrier Livre Inter, France Inter, 116 avenue du président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16, quel que soit le mode choisi, il faut parler de vous, de ce que vous aimez lire. Toutes les lettres seront lues. Vous avez jusqu'au 26 février pour écrire. Et puis, pour réunir cinéma et musique, on peut aller faire un tour à Paris, à la Gaîté Lyrique pour le festival de documentaires Fame, avec en particulier « Où es-tu, Joao Gilberto ?», documentaire sur les traces de Gilberto, l'inventeur de la bossa nova, qui vit désormais en reclus. Fame, c'est jusqu'à demain, dimanche 17 février.
Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais
linda. Voilà, Joao Gilberto. Nous vous avons retrouvé, Tintin, bonjour.
Bonjour.
Voilà, organisateur donc du Mondial du Tatouage, président du Syndicat National des Artistes Tatoueurs, car il faut dire artiste, hein.
Oui, bah, pour certains d'entre nous, peut-être pas tous, parce qu'il y a en tout état de cause des tatoueurs qui ne sont pas des artistes, mais par contre, ceux qui vivent au Mondial du Tatouage, on peut dire qu'ils en font tous partie.
Hein, pour vous, c'est un art que vous voudriez d'ailleurs qu'on reconnaisse comme tel?
Bah oui, pour au moins les tatoueurs d'entre nous qui sont des artistes, quoi, soient reconnus comme des artistes par l'État, puisque l'État organise des expositions au musée du Quai Branly, notamment sur l'art du tatouage, voilà le paradoxe.
Exact.
On organise des expositions, mais on ne reconnaît pas les artistes, les tatoueurs comme des artistes.
Alors on entendait tout à l'heure un tatoueur qui disait que la population avait beaucoup changé. Hein. Ça existe depuis la nuit des temps le tatouage, mais autrefois c'était réservé à une population marginale, hein, les bagnards et puis les marins au long cours. Aujourd'hui, le tatouage s'est généralisé.
Oui, ça s'est généralisé, mais autrefois c'était pas réservé aux bagnards non plus, puisque ceux qui se sont partagés le monde à Yalta étaient tous les trois tatoués. Roosevelt, Churchill et Staline étaient tous les trois tatoués. Donc on peut pas dire que c'était réservé aux bagnards.
Non, non, mais il y a bien plus longtemps que ça, les bagnards. Aujourd'hui, 14% des plus de 18 ans sont tatoués, c'est beaucoup.
Oui, bah oui, il y a du monde. Oui, il y a presque 20% maintenant des gens qui sont tatoués.
En tout cas, un dur, un vrai, un tatoué. Hein, l'expression est caduque maintenant. On peut plus dire ça. Les tatouages sont-ils essentiellement des messages politiques ou culturels ou personnels?
Bon, politique, c'est très très rare. Hein. Ça existe quasiment pas. Mais culturel et personnel, oui, en tout état de cause, mais pas forcément. Ça peut être juste. vous savez, s'offrir une pièce à un artiste comme on aime un peintre, ben voilà, on s'offre un tatoueur et au lieu d'accrocher la toile du peintre au-dessus de son canapé, on la porte sur sa peau. Donc voilà, c'est surtout s'offrir le travail d'un artiste.
Alors avec une charte des bonnes pratiques, parce qu'évidemment c'est pas neutre pour la santé, hein, le ministère de la Santé suit tout ça de près.
Oui, bien sûr, on travaille en accord avec les ARS qui viennent vérifier tout ça, bien sûr. Ça fait
les agences régionales de santé.
L'agence régionale de santé, oui, qui sont venues nous inspecter hier et à qui nous avons des meilleurs rapports. Donc tout est fait, vous savez, moi, c'est important pour moi que tout soit fait dans les règles en matière d'hygiène et qu'il n'y ait aucun problème.
Alors pourquoi y associer à votre mondial toujours des manifestations culturelles très différentes, le concert de hard rock ou cette année la danse contemporaine?
Bah oui, des fois c'est la photo, des fois c'est la peinture. On essaye d'associer ça à d'autres arts qui sont déjà reconnus comme des arts en tant que tels par la société. Et quel autre art du corps, autre que le tatouage, peut être plus un art du corps que celui de la danse? Et surtout avec un intervenant comme la compagnie des Saints Philippe Découffrier. Là, je crois qu'on peut difficilement mieux faire dans le monde entier, quoi, avec un tel prestige, une telle belle compagnie, quoi. Donc là, on est vraiment en train de faire des... Les spectacles d'hier étaient vraiment magnifiques et ces danseurs sont vraiment très excités à l'idée de redécouvrir leur art, mais d'une autre manière. Et je peux me vanter d'avoir fait les costumes de Philippe Découffrier le temps d'une représentation, qui vont être principalement habillés en slip avec des tatouages, mais c'est des tatouages qui sont éphémères, c'est-à-dire que j'ai dessiné auparavant et qu'on a fait réaliser comme des bécacomanies de type Malabar.
Voilà, tous les stars du tatouage sont donc à Paris. Hein.
Voilà, c'est ça. Bah oui, là, on a tous les meilleurs. Hein,
Jusqu'à demain soir, donc, à la Villette, à Paris. Merci à vous, Tintin, président du syndicat national donc des artistes tatoueurs. Merci beaucoup. L'arrestation d'un suspect hier soir à Paris, après le jet d'un produit toxique sur un passager du métro, un homme a été placé en garde à vue à la brigade des réseaux franciliens. Un jeune de 20 ans avait été gravement brûlé au bras et au visage sur la ligne 1 du métro parisien, après ce qui ressemble à une dispute entre personnes sans abri. Et puis 16 000 pintades grillées dans un poulailler de Caudan près de Lorient la nuit dernière, un poulailler qui a été entièrement détruit par un incendie. Sur les routes, premier week-end de chassés croisés des vacances avec l'arrivée ce samedi des vacanciers de la zone A. La journée était classée rouge en Savoie et de fait, Soisigbourg, ça bouchonne.
Et oui, notamment dans la vallée de la Tarentaise, sur la Nationale 90, comptait 3 quarts d'heure de ralentissement entre Albertville et Moutier. Puis dans l'autre sens aussi, ça bouchonne quand vous descendez de Bourg-Saint-Maurice, vous en avez pour 20 bonnes minutes. Des bouchons, il y en a aussi sur l'autoroute blanche, la 40, hein, surtout pour aller vers la Suisse depuis Druillat jusqu'à Saint-Germain-de-Joux. Vous avancez par à-coup sur 20 km. Sur la 43, là aussi, prenez votre mal en patience. Ça roule en accordéon de Lyon jusqu'à Chambéry. Dans les deux sens, vous mettez 1h40 par exemple entre le péage de Saint-Quentin et celui de Chambéry-Nord. Enfin, ça coince aussi sur les petites routes pour repartir des Deux Alpes sur la départementale 1091, par exemple, 3 quarts d'heure de bouchons vous attendent entre les Alberges et Roche-Taillé.
Soisigbourg, OPC Mobilité de Radio France. Dans un instant, la météo, plutôt agréable pour une mi-février, mais rien d'exceptionnel non plus. Il arrive que le printemps soit en avance pour tout le monde, comme ici en Creuse, où la température frôle les 20 degrés, plus du double des moyennes saisonnières. Reportage chez un consultant météo de France Bleu Creuse à Chamboran, Nina Valette.
Chez Michel Proust, la météo, c'est du sérieux. À l'entrée de la maison, un vieux baromètre en bois pour mesurer la pression atmosphérique. Et dans la cuisine, une station météo plutôt moderne.
Vous voyez la petite niche qui est là-bas? Il y a un thermomètre, il y a la sonde. Et par satellite, eh ben, ça me renvoie les données, pas spécialement du village de Cuculour ni de Chamboran, c'est pour la Creuse.
Et depuis plus d'une dizaine d'années, ce passionné de météo note tous les jours plusieurs données sur ses calendriers.
Je note les températures du matin, les millimètres de pluie qu'on a pu avoir. Et puis vous voyez, là, les grues, moi les premières, je les ai eues dimanche dernier.
Et c'est en regardant ces vieux calendriers France Bleu que notre spécialiste fait un constat.
Bon, les températures négatives sont à peu près identiques, mais la journée, il fait meilleur. Depuis samedi dernier, on a 12, 10, 14. Puis aujourd'hui, elle me prévoit 17. L'année dernière, 8, 5, 2, 8. À la moitié du mois, on est déjà plus élevé que l'année dernière. Hein.
Des températures très élevées pour un mois de février en Creuse, mais loin du record. C'était 22 degrés le 14 février 1998.
Et la moyenne pour février en Creuse, normalement, c'est 8 degrés. Le temps ?
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
L'arrivée officielle du printemps, c'est dans un peu plus d'un mois, mais ce week-end, on aura déjà un bon avant-goût de par les températures confortables, voisines cet après-midi d'une moyenne de 14 degrés dans la moitié nord, 17 au sud, et comme ces derniers jours, certainement près de 20 degrés sur le sud de l'Aquitaine, sous un ciel un peu plus mitigé qu'ailleurs sur la pointe ouest, également sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, où le vent marin sera sensible, mais partout ailleurs, le ciel sera pratiquement tout bleu. Pour demain, pas de changement après les gelées et les brouillards, remontée rapide des températures et arrivée tout aussi rapide du soleil, sauf comme aujourd'hui sur la pointe ouest et dans le golfe du Lion, toujours soumis à un vent méditerranéen sensible.